Au-delà du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est une expédition d'une ampleur inégalée. Pendant 2 ans, la goélette Tara parcourt le Pacifique d'est en ouest et du nord au sud pour comprendre comment les coraux, qui abritent 30% des espèces marines, réagissent au changement climatique et aux pollutions. À mi-parcours, le constat, basé sur 2000 plongées réalisées dans une vingtaine de pays, est plus qu'inquiétant. Nous en parlons avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Partager pour moins gaspiller, échanger les bons plans pour devenir éco-citoyen, c'est le principe de l'économie collaborative. Portée par l'essor des nouvelles technologies, cette nouvelle façon de consommer et de produire est en train de révolutionner nos vies. Il y a les grandes plateformes comme Airbnb pour la location de logements, Blablacar pour le covoiturage ou Le Bon Coin pour acheter des produits d'occasion. Mais c'est avec un état d'esprit social et solidaire que de nouveaux acteurs se lancent dans l'aventure en vantant les mérites d'une consommation plus responsable. Pauline Bandelier est allée à leur rencontre lors du premier salon grand public de l'économie collaborative et du partage qui s'est tenu à Paris le week-end dernier.
Vendredi 22 septembre, dans une salle de conférence de l'espace Champerret, Laetitia Vasseur, déléguée générale de l'association de consommateurs Halte à l'obsolescence programmée, intervient au sujet des nouveaux usages collaboratifs.
L'économie de l'usage, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que justement le fait de ne plus avoir dans le modèle économique de vendre le plus de machines possible, quelque part ça réduit la volonté de faire de l'obsolescence programmée parce que le business model il se situe au niveau de l'usage, de l'expérience. Quand vous achetez une machine à café, au final vous en fichez de la machine, ce que vous voulez c'est du café. Quand vous roulez en vélo, vous avez simplement besoin de vous déplacer. Donc ce changement de l'accès à la propriété vers l'usage, c'est vraiment une piste intéressante pour nous. Pour autant, sur certains modèles, c'est assez développé, ça se développe, mais il reste encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, c'est encore un modèle un peu presque expérimental dans certains secteurs. Donc, il reste encore beaucoup à faire et c'est peut-être là les freins.
Reconnu depuis 2015 par la France comme un délit dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, l'obsolescence programmée vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit, avec à la clé des conséquences lourdes, explique Camille Favaché, membre de l'association Halte à l'obsolescence programmée.
L'obsolescence programmée donc, génère beaucoup plus de déchets. Là où un produit ménager comme une imprimante ou un lave-linge ou une télé pourrait durer 10 ans ou 15 ans, le produit est mis au rebut au bout de 2, 3 ans ou 4 ans. Et donc au final, chaque famille, chaque ménage jette 2, 3, 4 fois plus d'objets, donc en poids et en volume, que ce qui pourrait être jeté. Tous ces déchets électroniques donc, présentent plein de substances qui sont dangereuses, qui sont très nocives pour l'environnement. Et ça a une portée internationale dans le sens où, dans les pays occidentaux, on envoie beaucoup de nos déchets électroniques et dangereux à l'étranger. En Afrique notamment, où ça pose beaucoup de problèmes de santé pour tous les enfants et adolescents ou adultes qui démontent tous ces objets sans aucune protection, ce qui est terrible pour leur santé au niveau des affections des voies respiratoires et autres.
Chaque mois, 500 containers de déchets électroniques en provenance des pays industrialisés sont débarqués au Ghana et finissent ici à Agboglossi. Personne n'en veut puisqu'ils contiennent des métaux lourds, du plomb, du mercure, et ils sont envoyés ici et jetés sur le site. Regardez celui-là dans les yeux. Vas-y, montre-nous tes yeux.
Il a du mal à ouvrir les yeux. Comment te sens-tu ? Il ne se sent pas très bien apparemment.
Ah, il n'arrive pas à les ouvrir à cause de la fumée. Tu as mal aux yeux ?
Je ne sais pas. Je suis allé me coucher et quand je me suis réveillé, c'était comme ça. Ça me fait mal. C'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Tous les jours, quand je me réveille, c'est comme ça.
Éco-conception, usage plutôt que possession de biens, réutilisation et recyclage. Autant d'actions qui participent à l'économie circulaire qui pourraient permettre à l'Europe d'économiser jusqu'à 320 milliards d'euros par an en matières premières. Le recyclage, c'est l'option choisie par la boîte à champignons, une entreprise sociale et solidaire initiée en Afrique par l'agronome Cédric Péchard à partir d'un savoir-faire ancestral chinois.
Nous, on récupère du marc de café pour le transformer en pleurotes. En fait, en France, chaque année, il y a 600 000 tonnes de marc de café qui est jetée. Et c'est dommage parce que le marc de café, c'est une vraie belle pépite. En fait, une fois qu'on a bu le café, il reste 97% de la richesse du café qui est là. Et ça tombe bien parce que c'est un super bon ingrédient pour faire pousser les pleurotes. Les pleurotes, en fait, sous sa forme toute petite, ce sont des graines. La graine du champignon, très vulgairement appelée, s'appelle le mycélium. Et le mycélium, en fait, ça se nourrit de cellulose. La cellulose, on la retrouve dans le marc de café et dans d'autres ingrédients comme le carton, qu'on va d'ailleurs récupérer en Ile-de-France toutes les semaines. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère tous ces ingrédients en Ile-de-France, on les transforme par des gens en insertion professionnelle qui vont faire ce savant mélange, les mettre sous des formes de boîtes à champignons. Et après, vous allez pouvoir expérimenter chez vous la pousse d'une de pleurotes. Il suffit d'ouvrir la boîte, il y a un vaporisateur inclus dedans, il suffit d'arroser. Et en 10-15 jours, il y a des pleurotes qui vont pousser. Vous allez pouvoir avoir une récolte, deux récoltes, trois récoltes. Et à la fin, ce qui est super, c'est que la base restante, qui s'appelle le substrat, il ne faut surtout pas le jeter, c'est un super bon fertilisant pour les bacs potagers, pour vos plantes, etc.
Renforcé par la loi du 31 juillet 2014, le secteur de l'économie sociale et solidaire représente 12,8% de l'emploi privé en France. Les entreprises qui la composent sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale et sur un encadrement strict des bénéfices. Un modèle économique que plébiscite Claire Allais, responsable marketing de la boîte à champignons.
Je pense qu'il y a des structures qui ont réussi à montrer que les entreprises sociales et solidaires peuvent fonctionner. Après tout, on a une activité économique comme n'importe qui, sauf qu'en fait, le profit il va être réinvesti dans l'entreprise. Il n'y aura juste pas des dividendes qui seront distribués. Alors c'est vrai que pour trouver de l'argent, parfois, c'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'arrive pas à trouver notre modèle. Les entreprises sociales et solidaires ont leur business model et c'est hyper important, justement. Elles ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir de business model qui tienne, parce qu'on a besoin de ça pour continuer, pour se développer et pour développer notre activité.
Autre entreprise sociale engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, Phoenix, une plateforme internet qui vise à la redistribution solidaire des invendus.
L'idée est venue avec un constat qui était assez simple, c'était que d'un côté on avait de plus en plus de gaspillage, notamment alimentaire, dans la grande distribution, dans la restauration collective, chez les industriels aussi. Et puis de l'autre côté, il y avait une demande croissante des associations pour avoir des produits et de plus en plus de bénéficiaires qui venaient toquer à la porte des Restos du Cœur. Donc on s'est dit qu'il y avait un rôle à jouer d'intermédiaire entre ceux qui avaient des surplus, des invendus, et ceux qui pouvaient les récupérer plutôt que de les envoyer à la poubelle ou à l'incinération ou à la décharge.
En France, 9 millions de tonnes de déchets alimentaires sont générés chaque année, dont 2,3 millions dans la distribution. Si Phoenix a déjà essaimé dans plusieurs pays européens, la problématique du gaspillage alimentaire intéresse aussi l'Afrique, affirme Jean Moreau, son cofondateur et président.
Nous, on a un entrepreneur ivoirien qui est venu nous voir en formation pour s'inspirer. Donc on l'a accueilli pendant 15 jours dans nos bureaux pour qu'il voit un peu nos solutions. Et donc il a vocation à dupliquer le modèle en Côte d'Ivoire. Et donc c'est un sujet qui est mondial. Le gaspillage, c'est structurel, il y en a partout, donc non, au contraire.
À la faveur de la loi contre le gaspillage alimentaire adoptée par le Sénat le 3 février 2016, de nombreuses initiatives ont vu le jour. Parmi elles, l'application Too Good To Go, lancée au Danemark et qui s'est depuis développée dans plusieurs pays européens.
L'application Too Good To Go, elle met en fait en relation les commerçants de quartiers alimentaires qui peuvent avoir des invendus en fin de journée et les consommateurs, donc vous et moi, qui allons passer les récupérer à la fin de la journée pour leur éviter la poubelle. Donc en fait, c'est vraiment une solution gagnant-gagnant qui permet aux consommateurs de manger de délicieux produits à prix très réduit et aux commerçants de ne plus jeter leurs produits et au contraire de les faire découvrir à de nouveaux clients.
Il est 13h, c'est l'heure du co-lunch qui permet de rencontrer et d'échanger avec d'autres visiteurs du salon. Autour de la table, Marie Trépos, fondatrice de l'entreprise Solidaire Well, qui permet de se rendre des services bénévoles entre particuliers.
C'est pas du vent.
On annonce quand même 5 millions de personnes en situation d'isolement. C'est énorme. Hein. Personne seule. Des gens qui ont moins de... je crois que la définition officielle, c'est des gens qui vont avoir moins de 2 ou 3 conversations par mois. Donc il y a vraiment des gens qui sont dans une grande détresse de solitude. Et Welp, il y a aussi l'idée de ça. Voilà, de recréer ce lien Parce qu'au sur Welp, on va s'entraîner sur plein de trucs. Hein. Ça peut être j'ai envie d'apprendre la guitare, j'ai besoin d'un petit cours de maths pour mon fils, j'ai besoin d'aide pour bricoler, j'aimerais bien qu'on aille voir ma maman qui est toute seule dans sa maison de retraite. Voilà, tout ça derrière, c'est de la création de liens.
Créer des liens solidaires et collaboratifs au-delà des continents, c'est l'objectif de Julien, 27 ans, qui a fondé la marque José. En 3 mois, il a réalisé une collection de pulls en laine d'alpaga avec des artisans boliviens. Une première production de 450 pulls faits main s'est rapidement vendue sur une plateforme de financement participatif.
Alors c'est un projet collaboratif parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec ces artisans et on les rémunère à la hauteur de leur talent, c'est-à-dire qu'on les paye un prix juste. Le salaire minimum en Bolivie pour des artisans pourrait être autour de 50 à 75 euros par mois. On les paye autour de 350 euros par mois parce que c'est aussi grâce à eux que ce projet est né, qu'on a développé vraiment toute cette première collection avec eux. Donc c'est notre manière aussi de les mettre en avant. Et ce qu'on veut depuis le début, c'est que José soit une marque de mode centrée sur l'humain, qui est un petit peu un concept qui a été oublié par pas mal de marques de l'industrie. Et c'est quelque chose que nous, on veut remettre en avant.
Pour conclure la journée, une battle d'idées organisée par Agora Lab TV sur le thème de la collaboration.
Pendant longtemps, j'ai broyé du noir. Pendant longtemps, j'ai cultivé ma haine. Pendant longtemps, je ne regardais que moi. Pendant longtemps, j'ai pensé, chacun son pain, chacun fait son beurre. On ne partage rien à part sa mauvaise humeur. Mais il faut bien oublier nos peurs. Si on veut un monde meilleur, il faut qu'on s'y mette à plusieurs. Il faudrait qu'on s'y mette ensemble. Ensemble. Toi plus toi plus toi plus toi et moi ensemble.
Pauline Bandelier, Paris, RFI.
Plus que deux pays sur la planète entière à ne pas soutenir l'accord de Paris sur le climat, conclu fin 2015 lors de la COP21. Il y a la Syrie de Bachar el-Assad, ravagée par la guerre civile, et les États-Unis de Trump. Le Nicaragua devrait signer bientôt, alors faut-il s'inquiéter de ce bras d'honneur américain? A priori, pas tant que ça, d'autant qu'aux États-Unis, la riposte s'organise. Les entreprises, les villes et les États s'unissent pour démontrer leur engagement, comme nous l'explique Chris Davis, conseiller spécial sur l'environnement du gouverneur de l'État de Washington.
Many of us expected him.
Nous nous attendions plus ou moins à cette réponse de la part de Donald Trump, mais il faut bien comprendre que ce retrait des États-Unis de l'accord de Paris mettra 3 ans pour être opéré, et en 3 ans, il peut se passer plein de choses, et les États-Unis sont toujours dans l'action contre le changement climatique.
Alors cela a déclenché une vive réaction aux États-Unis de la part d'entreprises, d'ONG, d'États aussi, donc il y a plusieurs organisations qui se sont créées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'est organisée la riposte ?
S'il y a un aspect positif dans la décision de Donald Trump, c'est bien la mobilisation des acteurs non étatiques, les universités, les entreprises, les associations, les ONG qui ont décidé de travailler tous ensemble dans la lutte contre le changement climatique.
And the reaction was sudden.
Cette décision était soudaine, mais la réaction des acteurs non étatiques a été rapide et a pu créer un sursaut d'intérêt pour ces questions.
Comment ça se traduit concrètement, cette mobilisation ?
So in the case of the Climate Alliance,
Une alliance des États pour le climat a été créée et dans le cadre de cette alliance, les États s'engagent à une réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2026.
We also agreed to track and report our emissions through that period of time.
Les États se sont également accordés à contrôler et à traquer toutes ces émissions jusqu'à la période 2026.
And finally, we agreed to work together.
Et nous nous sommes mis d'accord pour coopérer ensemble sur des initiatives et des actions multi-États qui nous permettraient de mieux lutter contre le changement climatique.
Combien d'États sont impliqués dans cette alliance?
Today, 13.
Aujourd'hui, nous comptons 13 États impliqués dans cette alliance et nous espérons annoncer de nouveaux membres, de nouveaux États.
Est-ce que les 14 États impliqués font partie des plus polluants des États-Unis ?
La totalité des États inclus dans l'alliance émettent 30% des gaz à effet de serre des États-Unis. Il y a des États très émetteurs comme l'État de Californie, mais d'autres États les plus émetteurs ne sont pas encore intégrés dans l'alliance.
Those would include Texas and Florida.
Dans cette alliance, il manque de grands émetteurs comme la Floride ou le Texas, mais des États largement émetteurs comme la Californie ou l'État de New York sont déjà impliqués dans cette alliance.
Et par exemple, au niveau de votre État, donc l'État de Washington, qui n'a rien à voir avec la ville de Washington, hein, c'est complètement de l'autre côté, complètement à l'ouest, où il y a la ville de Seattle. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme plan climat ?
Washington State.
L'État de Washington est très impliqué dans les énergies renouvelables et la majorité de l'électricité provient de l'énergie hydraulique.
So we have programs to increase the number of electric vehicles.
Nous avons un programme pour augmenter le nombre de véhicules électriques.
Incentives and requirements for energy efficiency.
Des actions pour inciter à la réduction de l'utilisation d'énergie et à être plus efficace en énergie.
Standards to ensure we bring as many renewable energy sources into our system as possible.
Des normes et des standards sont mis en place pour s'assurer que nous utilisons une part plus importante d'énergie renouvelable dans notre consommation d'énergie.
Et est-ce que vous êtes en lien, par exemple, avec l'initiative We Are Still In que vous pouvez peut-être nous présenter?
Washington State is a participant and We Are Still In, as is the U.S. Climate Alliance.
L'État de Washington est un participant de cette initiative We Are Still In que nous pourrons traduire par nous faisons toujours partie de l'accord de Paris, de la même manière que l'Alliance des États pour le climat fait partie de We Are Still In.
Est-ce que vous pensez que cette mobilisation des États, des entreprises, hein, il y a aussi de nombreuses entreprises américaines, plus de 1000 je crois, qui ont écrit à Donald Trump pour lui dire de réfléchir sur de revenir sur sa décision, votre mobilisation en tant qu'État, est-ce que ça a un impact potentiel ?
Nous pouvons nous mettre d'accord sur le fait que les réactions du président sont imprévisibles et soudaines, mais aujourd'hui, il est difficile pour les États-Unis, la communauté internationale et le président de ne pas voir l'initiative We Are Still In.
Les États-Unis émettent beaucoup de gaz à effet de serre, hein, c'est le deuxième émetteur mondial. Est-ce que vous pensez que le mandat de Donald Trump peut voir la hausse des émissions de gaz américaines ?
Trump's policies don't help our efforts.
La politique de Donald Trump ne nous aide pas sur nos efforts, mais si on regarde ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, ce sont surtout les entreprises qui ont fait des efforts de réduction d'émissions. Et je ne pense pas que Donald Trump aura un impact sur ce marché privé.
Donc finalement, c'est beaucoup de bruit pour rien.
The market's very powerful and there will be many states.
L'économie est très puissante aux États-Unis et les États aussi, donc j'espère que vous avez raison et que ce sera beaucoup de bruit pour rien. Les États qui ont la politique la plus ambitieuse au niveau du climat sont aussi les États qui ont l'économie la plus florissante. Et je ne pense pas que le président pourra casser cette dynamique.
Merci beaucoup.
Thank you very much. It's a pleasure to be with you.
Plaisir partagé, Chris. Restez avec nous sur RFI. Juste après le flash d'info, nous ferons le point sur les découvertes réalisées par les scientifiques de l'expédition Tara, qui parcourt depuis un an le Pacifique en scrutant l'état des récifs coralliens. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas très bonnes. À tout de suite.